qui sont en période d'examen en ce moment. Il y en a plusieurs. Je sais que Bruno et Tonio là sont en train de passer des heures de test après test après, et ça pendant plusieurs mois, plusieurs semaines au moins. Et si on lui demandait, si on demandait à d'autres, est-ce que vous aimez ces examens? Je ne crois pas qu'ils diraient oui. Peut-être que s'ils sont reçus dans quelques semaines, ce sera différent. Prions pour tous ceux qui ont ces tests à passer. Les tests, les examens. C'est pas drôle quand on échoue. Je me souviens, l'été dernier, nous étions à Seattle. Nous étions dans une de ces grandes surfaces à prix très bas. Et la nourriture est partout présente aux États-Unis. Des hot dogs dans le magasin. Qui ne coûte pas cher, mais sur laquelle on peut ajouter un kilo de choucroute. Un bol de mayonnaise. Et j'avais profité un peu de cette disponibilité. Et puis Sébastien, à un moment donné, vient m'attraper la main. Et il m'emmène, il y avait un test gratuit pour le cholestérol. Et au début, j'ai dit non, on n'a pas le temps. Puis toute la famille s'est liguée contre moi. Et avant que je le sache, j'avais le doigt piqué et... Et j'attendais les résultats. Et pour les résultats, le docteur m'a demandé de m'asseoir. Je savais que j'avais eu des problèmes dans le passé avec mon taux de cholestérol. Mais je pensais que la saine nourriture française avait pris soin de ça. Et ça doit être ce hot dog avec la mayonnaise.
It must have been the hot dog with mayonnaise.
Qui a fait que le gars m'a dit que mon taux était excessif.
And the doctor said that his levels were excessively high.
Et qu'il fallait que je consulte un docteur.
And that he needed to see a doctor.
Que j'arrête de manger de la mayonnaise.
And he had to stop eating mayonnaise.
Des œufs, etc. Quelque part, c'est vrai que c'est pas très agréable de s'entendre dire qu'on a un problème de santé. Mais ces tests ne sont pas destinés à nous déprimer. Ils sont destinés à nous améliorer. À nous corriger si nous faisons fausse route. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'apôtre Paul nous invite à prendre un examen. Il va nous dire de nous examiner nous-mêmes. Nous arrivons, peut-être certains sont soulagés, à la fin de l'étude de 2 Corinthiens. Ça doit faire 6 mois qu'on a commencé. Mais en même temps, je crois qu'on a tous développé une profonde amitié pour l'apôtre Paul. Il nous a montré que toutes ses souffrances pour essayer d'amener la bonne nouvelle, comment il était rejeté. Et quelque part, Paul, il est un peu à l'image de Christ. Il a un amour inconditionnel pour ses Corinthiens. Ces chrétiens rebelles, critiques, prêts à suivre la première personne qui leur dit des choses qui leur plaisent. Et Paul arrive à la fin de sa lettre où il va leur dire qu'il pense aller les voir. Et quelque part, il est toujours un peu inquiet de ce qu'il va trouver là-bas. À la fin du chapitre 12, la semaine dernière, nous avions vu qu'il disait qu'il redoutait un peu de les voir là-bas. Il disait, verset 20, « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontards, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite, des dérèglements qu'ils ont pratiqués. Nous avons vu dans la première lettre aux Corinthiens tous les péchés qui régnaient dans l'église de Corinthe. Toutes les mesures correctives que Paul leur donnait. Dans 2 Corinthiens, il a expliqué qu'il était très agréablement mis au courant de bonnes nouvelles venant de chez eux. Vous savez que dans cette lettre, il défend son autorité d'apôtre. Les Corinthiens étaient tombés sous la coupe de faux apôtres qui disaient « Oh Paul, c'est pas un vrai apôtre ». Il n'attend pas d'eux d'être parfaits. Il attend d'eux, dans ce verset 21, qu'ils se repentent de leur mauvaise voie. Il va même jusqu'à dire qu'il a peur d'en pleurer certains, c'est-à-dire qu'il a peur que Dieu frappe certains qui continuent dans le péché de mort et qu'ils se retrouvent à leurs funérailles. Nous savons qu'au début de l'ère chrétienne, au début du message de l'Église, dans le livre des Actes, on voit par exemple l'exemple d'Ananias et Saphira, ce couple qui prétendait avoir donné tout leur argent, qui mentait, se retrouvait frappé par le Seigneur de mort. Et donc dans le chapitre 13, il continue en expliquant ce qu'il attend d'eux. Et je vous invite à lire avec moi chapitre 13, versets 1 à 13. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Lorsque j'étais présente pour la seconde fois, je l'ai déjà dit, aujourd'hui que je suis absent, je le dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Examinez-vous vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que l'épreuve paraisse pour nous un succès, mais pour que vous fassiez le bien, même si pour nous l'épreuve semble être un échec. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi, absent, j'écris cela, afin que, présent, je n'use pas de sévérité selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vais chez vous pour la troisième fois.
Paul mentions this is the third time I am coming to you.
Et là, il ajoute que toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins.
And then he goes on to say every fact is to be confirmed by the testimony of two or three witnesses.
Là, il fait référence à une loi de l'Ancien Testament.
And he's making reference to a law in the Old Testament.
Il disait qu'on ne pouvait pas se contenter de l'accusation d'une seule personne contre quelqu'un, il fallait qu'il y ait au moins deux ou trois témoins dont le témoignage concorde. Jésus lui-même a repris cette loi pour expliquer comment la discipline devait se passer dans l'Église. On peut regarder ensemble Matthieu 18.
In Matthew chapter 18,
à partir du verset 15,
starting in verse 15,
c'est page 22 dans la Bible à la colombe. Jésus parlant déclare : si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si vous voyez quelqu'un qui tombe dans le péché, c'est pas la peine d'en parler à tout le monde, allez lui parler directement.
So Jesus tells them, if your brother sins, go and reprove him in private. If he listens to you, you have won your brother. In other words, if we're aware of someone sinning, we shouldn't spread it around. We should go and talk to them privately.
Priez pour cette personne et allez lui parler.
Pray for them and go and talk.
Par contre, verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins.
But then he goes on in verse 16 and says, if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses, every fact may be confirmed.
Si la personne est rebelle, ne veut pas reconnaître qu'elle fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu.
So if the person is rebellious and doesn't want to recognize they're doing something against.
Alors nous devons prendre une ou deux autres personnes pour confronter la personne sur ce problème. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager.
And if he refuses to listen even to the church, Let it meet you as a Gentile and a tax gatherer.
La Bible explique, Jésus explique ici que si la personne est rebelle à vous et puis rebelle à un petit groupe de frères ou sœurs,
so the Bible explains to us, Jesus is telling us that if the person is rebellious towards you and then towards two or three people,
alors il faut le dire à l'église.
Then we need to let it be known to the church.
Pour mettre en garde peut-être contre des pratiques dangereuses.
Warn them, protect them, maybe against dangerous practices.
Peut-être que la personne a un problème avec l'argent, le vol.
Maybe the person has a problem with money or theft.
Avec l'immoralité.
Or immorality.
Qu'il soit pour toi comme un païen et un payager, c'est-à-dire quelqu'un qui fait payer les impôts. C'était quelque chose qui n'était pas bien vu à Jérusalem sous l'occupation romaine. Prend ce passage des fois pour dire il faut excommunier la personne, ne plus avoir aucun contact avec elle.
So often from this passage we think Jesus is telling us to excommunicate that person, that there would be no more contact with them.
Mais lorsque Jésus dit qu'il faut considérer l'autre comme un païen,
but when he says to consider them as a Gentile,
nous savons que Jésus veut que nous parlions aux païens.
We know that Jesus wants us to speak to the Gentiles.
Et je crois que c'est vrai, il faut exclure la personne de la communion de l'assemblée.
It's true that Pierre believes we are to exclude the person from the church, the assembly.
Mais de reconnaître qu'en fait la personne n'a pas vraiment été sauvée.
But maybe to recognize that the person has not yet been saved.
Ça, c'est ce qu'on appelle exercer la discipline dans l'église.
And this is what's called exercising church discipline.
C'est quelque chose qui est malheureusement très rare de nos jours.
And it's something unfortunately that is very rare in our day.
De nos jours, c'est pas cool de confronter.
Today, it's not cool to confront.
Même légalement parlant, on peut avoir des ennuis judiciaires si on exclut quelqu'un.
Even legally speaking, we can have judicial problems if we exclude someone from our gatherings.
Il y a eu des procès aux États-Unis contre des églises qui avaient mis à la porte pour un temps des personnes.
There have been cases in the United States against churches who have refused to admit someone into their meetings.
Et donc, quelque part, il faudrait ne pas hésiter à suivre ce principe.
But somehow we shouldn't hesitate to follow these principles.
Et je sais que ça se passe un peu déjà parmi nous.
And Pierre knows that we do apply these a little bit amongst us here.
Sans aller trop loin, mais dans l'amour, de reprendre les frères, c'est une très bonne chose. Les frères, les sœurs, quand on fait quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, le faire remarquer sans le désir de mettre à plat, de critiquer, mais de restaurer.
And Pierre says that it's good for us when we see someone who's not necessarily walking according to the Lord to go up to them out of love, in love, and express that with the goal of restoring them, not of condemning them.
Si vous arrivez en retard, j'irai vous voir tout seul et puis après, on le dira toutes les... Non. Il s'agit de choses sérieuses, bien entendu.
No, we're talking about serious things.
Et arriver à l'heure, c'est une chose sérieuse aussi.
And coming on time, Sunday, is a serious thing.
Alors, qui sont ces trois témoins? Certains pensent que c'est peut-être Timothée, Tite et Paul.
So, who are these three witnesses? Some think it was Timothy, Titus and Paul.
D'autres pensent que sa troisième visite va être comme ce troisième témoin. Il les a vus une première fois, une deuxième fois. Si la troisième fois, il y a des choses qui n'ont pas changé, là, il va se fâcher. Peu importe exactement. L'idée importante, c'est qu'il dit, vous avez été assez prévenus, maintenant la punition est imminente, la discipline est imminente.
Punishment is going to be exercised.
Un auteur dit qu'il déclare la guerre à tous ceux qui s'opposent à l'autorité de la parole de Dieu. Il utilise un terme fort, je n'épargnerai personne.
And he's using a very strong term when he says I will not spare anyone.
C'est un terme militaire.
It's a military term in verse 2.
Qui nous rappelle qu'il s'agit d'un combat spirituel.
And it reminds us that we're dealing with a spiritual battle.
Et il continue avec toujours un peu d'ironie. Vous trouvez que je parle de façon qui manque d'autorité? Vous demandez si vraiment je parle au nom de Dieu. Est-ce que la parole de Christ est en moi? Vous risquez de voir, oui, que je peux être puissant dans ma colère.
Well, you're risking to see me be really powerful in my anger.
Vous vous souvenez, il disait que ses lettres étaient fortes, mais en personne, il était faible, sa parole était méprisable.
You remember that we noted that in his letters, Paul was strong, but in person, he appeared weak and a little detestable.
La situation demandait de l'autorité. La source de son autorité, ça va être c'est Christ qui parle en lui. Il ne tombe pas dans l'autoritarisme. Il ne dit pas c'est moi le pasteur qui a implanté l'église, vous allez voir, vous allez m'obéir. Non, il avait une autorité qui venait du fait que Christ parlait à travers lui.
He had an authority that came from Christ speaking through him.
Si nous voulons avoir de l'autorité lorsque nous parlons à ceux qui nous entourent,
if we want to have authority to those we are speaking to around us,
il faut que nous parlions les paroles de Christ.
We need to be speaking the words of Christ.
Nos opinions,
our opinions,
nos impressions,
our impressions,
n'ont pas d'autorité en elles-mêmes.
Have no authority in themselves.
Notre seule source d'autorité, ça va être la parole de Dieu.
Our only source of authority is the word of God.
Je n'ai pas d'autre source d'autorité que ce que la Bible me permet de dire, qui est la vérité. C'est vrai que des fois je peux m'aventurer sur le terrain politique. Exprimer mes sentiments. Mais là je sens que c'est mon opinion contre celle d'autres personnes. Il est important de réaliser qu'aucun homme politique ne parle au nom de Christ en ce moment. On trouve de la compassion, de l'amour de l'autre plutôt à gauche.
We find compassion and love for our fellow men on the left.
On trouve de la rigueur contre le laxisme moral plutôt à droite.
And on the right we find a certain strictness against moral laxism.
Je crois. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'il n'y a pas un côté qui est avec Christ. Dans la situation présente, on sait qu'il y a un danger réel. Et on n'est pas là pour parler de politique. Mais n'allez pas soutenir un candidat en pensant qu'il représente Christ.
But
Bien au contraire.
On the contrary,
prenons l'opportunité de cette situation,
take advantage of this situation
pour montrer à tous que la solution, elle ne vient pas de la politique.
To show everyone that the solution doesn't lie in politics.
Encore une fois, il y a des situations politiques qui sont bien meilleures que d'autres. Mais ce qui compte, c'est Christ en nous. L'homme est pourri à la racine. Qu'il utilise des idées de droite, des idées de gauche, il est pourri. Et le seul espoir, c'est Christ en nous. Amen. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire n'importe quoi. Qu'il ne faut pas faire front à des choses horribles. Mais soyons mesurés et soyons en Christ avant toute chose. Prions pour notre pays. Et c'est vrai que si nous donnons des paroles qui viennent de la Bible, alors nos paroles ont de l'autorité. Si vous conseillez, si vous essayez d'encourager votre voisin, votre famille, si vous dites « aide-toi, le ciel t'aidera », ça ira pas bien loin. Mais si vous leur dites que Jésus a dit « ma grâce te suffit », c'est puissant.
My grace is sufficient for you. There's power in those words.
Et Paul dit qu'en fait, il a la même faiblesse que celle de Jésus-Christ sur la croix.
And Paul is saying that he has the same weaknesses.
Weakness
as Jesus Christ on the cross.
Jésus s'est laissé mourir sur la croix.
Jesus let himself die on the cross.
Sans réagir, en quelque sorte. Et ça, c'est plutôt de la faiblesse, n'est-ce pas? Il aurait pu, il le dit, appeler les légions d'anges pour terminer les choses de façon apocalyptique. Mais encore une fois, la puissance de Dieu, elle s'exprime de façon paradoxale. La parole de la croix, elle est folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est la puissance de Dieu.
1 Corinthiens 1:18.
C'est vrai que le message de la croix, c'est le message de la faiblesse de Christ volontaire. Il s'est humilié, mais il est ressuscité dans la puissance de Dieu. Quelqu'un a dit, la personne qui est faible à vue humaine parce qu'elle cherche à faire la volonté de Dieu est en fait suprêmement forte. La personne qui est faible à vue humaine, parce qu'elle cherche à faire la volonté de Dieu, est en fait suprêmement forte. Les Corinthiens, ils aimaient bien critiquer Paul. C'était leur passe-temps favori. C'est le passe-temps favori de beaucoup. On aime bien critiquer les autres. Les guignols, ça représente un peu l'esprit français. Paul dit aux Corinthiens qu'au lieu de le critiquer, il ferait bien de se critiquer un peu eux-mêmes.
And Paul is telling the Corinthians, instead of criticizing, it would be good for them to do some self-criticism.
Jésus aussi a parlé de ça dans Matthieu 7.
And Jesus spoke of this also in Matthew 7.
Il disait, si vous voulez pas être jugé, ne jugez pas les autres.
He said, if you do not want to be judged, do not judge others.
À la façon dont vous jugez les autres, vous allez être jugé vous-même.
And by your standard of measure, it will be measured to you.
Et là, il dit, avec cette image très... très surprenante et en même temps très forte. Pourquoi est-ce que vous allez chercher la petite bête dans l'œil de votre voisin, un petit cure-dent, là, la paille? Alors qu'il y a une poutre qui traverse votre tête. Et ce mot très fort, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère.
And then he says in very strong terms, you hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye.
Donc pas de jugement dans l'idée de détruire l'autre.
So no judgment with a plant by its fruit.
Et qu'il est aussi important d'exercer du discernement.
And that it's important to exercise discernment.
Donc d'apprécier les situations, les choses, en juger. Mais toujours pas dans l'idée de détruire la personne, mais d'être circonspect ou de restaurer l'autre. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est le passage à souligner dans ce chapitre. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Jésus est en vous ou pas? La version à la colombe dit, est-ce que lorsque vous vous soumettez à ce test, est-ce que l'épreuve est un échec? Et l'épreuve est un échec, d'autres versions traduisent, est-ce que vous êtes rejeté? Est-ce que vous échouez au test? Le terme qu'il utilise pour examiner, c'est le terme que les Grecs utilisaient pour dire qu'ils soumettaient ceux qui étaient candidats à des élections. Il leur faisait subir un test avant qu'ils puissent se présenter à un poste de magistrat. Est-ce que vous êtes dans la foi? Autrement dit, êtes-vous réellement chrétien? Êtes-vous réellement né de nouveau?
Are you really born again?
Et la question, elle doit interpeller chacun de nous.
And the question should really strike each one of us.
Parce que la réponse n'est pas nécessairement évidente.
Because the answer isn't necessarily evident.
Ça veut dire qu'il y en a qui pensent être chrétiens alors qu'il n'en est rien du tout. Ça peut arriver comme une surprise terrible. Bien pire qu'un taux de cholestérol élevé. Là, on parle de non seulement de vie, mais de vie éternelle. Et c'est vrai que dans ma vie, c'est souvent une question qui m'interpelle très profond. Est-ce que je fais fausse route?
Am I on the wrong path?
Quelqu'un a dit que c'était terrible de s'apercevoir à la fin de sa vie.
Someone said it's horrible to perceive at the end of your life,
de regarder derrière soi
to look behind you,
et de voir qu'on a gravi tous les échelons de l'échelle. Puis de s'apercevoir en arrivant en haut que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Certains peuvent dédier toute leur vie à une carrière pour être mis à pied avant la retraite de façon brutale. Des choses que nous tenons à cœur, est-ce qu'elles sont véritables? Notre façon de vivre, est-ce qu'elle va tenir le choc? C'est le grand prédicateur Spurgeon qui disait que avant de mettre un bateau à l'eau, on en examine la coque. Ça m'a parlé, parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, je me souviens d'être parti avec le père de Nancy à la pêche au saumon, on était parti dans un petit bateau qu'il avait emprunté à un voisin, le voisin n'était pas là. C'était un de ces petits bateaux à coque d'aluminium. Alors on a vérifié qu'il y avait de l'essence dans le moteur et nous sommes partis au large. On n'avait pas examiné la coque.
And we didn't check the hull out.
Et dans l'excitation du voyage, du bateau qui fonçait dans l'eau, on n'a pas remarqué qu'en fait il y avait de l'eau qui rentrait par des petits trous. Nous avons réalisé lorsque nous sommes arrêtés, prêts à lancer nos cannes à pêche, à pêcher, il y avait vraiment des jets d'eau qui arrivaient à l'intérieur du petit bateau. Heureusement, on avait un peu de chewing-gum. Et ça nous a permis de revenir jusqu'au rivage. Est-ce que le bateau de notre vie est sûr?
Is the boat of our life solid?
Safe.
Safe.
Est-ce que nous sommes dans la foi?
Are we in the faith?
Encore une fois, être chrétien, c'est pas venir une fois par semaine à l'église.
Again, to be a Christian is not coming once a week to church.
Adhérer à certains principes moraux.
Or adhering to certain moral principles.
Même lire sa Bible régulièrement ne fait pas de vous un chrétien.
And even reading your Bible regularly doesn't make you a Christian.
Qu'est-ce qui fait de vous un chrétien?
What makes you a Christian?
C'est Jésus-Christ en vous. Amen. Il ne s'agit pas de doctrine,
it's not a question of doctrine,
mais d'intimité avec lui.
But intimacy with him.
Pas de religion, mais d'une relation avec lui.
Not religion, but a relationship with him.
Pas de connaître des choses à son sujet,
not to know things about him,
mais de le connaître. Alors c'est bien, pour le cholestérol, on peut donner son sang et voir un résultat électronique. La question est, comment est-ce qu'on peut savoir si Christ est en nous? Dans la parole, nous pouvons trouver plusieurs tests. 1 Jean 4, 13 nous dit, c'est pas la peine de vous y tourner, je vais le lire.
In 1 John 1, or 4, 13, you don't have to turn there, there we'll read it.
Nous allons voir qu'un des tests, c'est le témoignage de l'Esprit Saint.
We'll see that one of the tests is the witness or testimony of the Holy Spirit.
Jean disait, à ceci nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Paul disait aussi dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sentons la présence de l'Esprit Saint qui nous reprend, qui nous guide dans notre vie, le fait de savoir qu'il nous a donné son esprit, ça devrait nous mettre en paix. Un autre test essentiel, c'est l'obéissance envers Dieu. Dans 1 Jean 2, 3, Jean disait, « À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. » Point essentiel, bien sûr, c'est l'amour des frères.
Point, course,
1 Jean 3,14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous vous souvenez des paroles de Jésus qui disait à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il va y avoir aussi le test d'une paix intérieure. Malgré les circonstances qui peuvent être très éprouvantes, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit dans Romains 5, 1. Un autre élément qui va nous indiquer que nous sommes vraiment en Christ et qu'il est en nous, c'est que nous allons constater que nous avons de nouveaux désirs. Souvent, les nouveaux croyants découvrent la soif de lire la parole, la soif de se réunir pour prier, la soif d'aider les autres, de servir. Je me souviens qu'au début de ma vie de chrétien, après ma conversion, je m'étais proposé pour aider à conduire un bus d'handicapés jusqu'à l'église. Et un jour, je me retrouvais, il était très tôt le matin, 7h, j'avais pas eu le temps de prendre de café, je conduisais le bus vide pour aller chercher. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que je fais là? Quelques semaines plus tôt, j'aurais été à la pêche. Ou j'aurais fait la grâce matinée jusqu'à midi. Mais le Seigneur m'avait donné de nouveaux désirs. Et quelque part, ça me confortait dans ma foi de réaliser qu'en fait, oui, c'est vrai, je faisais d'autres choses. C'est vrai que automatiquement, s'il y a un changement intérieur, il va se manifester à l'extérieur. C'est un peu ce que Jacques disait, si je ne vois pas d'œuvre, de bonnes actions, alors là, je me demande s'il y a vraiment une foi réelle. me souviens de mon beau-frère qui nous avait parlé le premier du Seigneur. Du jour au lendemain, il avait abandonné l'alcool. Et c'est ce que Paul appelle ne plus être sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit.
That's what Paul calls the
being under the influence of the flesh.
Being under the influence of the flesh.
Not being, but under the one of the spirit. Je parlais des nouveaux chrétiens.
Pierre's been speaking of new Christians.
Parce qu'il y a toujours le danger de se refroidir. De revenir en arrière, de se laisser influencer par le monde qui nous entoure, de développer un esprit critique, ne pas chercher à encourager les gens, mais à les mettre à bas. Et donc, il est très important que cet examen, ce ne soit pas un examen qu'on fasse une fois pour toutes, ça me rappelle que je dois me refaire tester pour le cholestérol. Nous devons régulièrement nous examiner nous-mêmes. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? C'est à nous de le faire parce que les autres ne peuvent pas voir nos motivations. Et nous ne pouvons même pas le faire tout seul. Parce que Jérémie nous disait que le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Il est incurable. Jérémie 17, 19. Et David avait la même prière dans le psaume 139. Il disait à la fin de ce psaume, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. » 139, 23, 24. C'est vrai, quand on n'est pas chrétien, qu'on est nouveau chrétien, on se dit, mais à quoi ça sert de se faire sonder par Dieu? Je vois bien tout ce qui ne va pas dans ma vie. Mais petit à petit, notre chair devient plus sophistiquée. On ne reconnaît pas tout de suite les choses horribles que nous pouvons faire par nos attitudes, par nos comportements. Et on doit demander à Dieu son aide pour nous montrer ce qui ne va pas. Il ne s'agit pas encore une fois de se livrer à une introspection morbide. Il ne s'agit pas de regarder à tous nos péchés, mais de tourner nos yeux vers Jésus. Quelqu'un a dit que quand on tournait une fois le regard vers soi-même, il fallait au moins tourner 10 fois les yeux vers Jésus pour équilibrer. Est-ce que nous sommes dans la foi? Est-ce que Jésus-Christ est en nous? J'ai une liste de questions que se posait un auteur anglais, Alan Redpath, que j'ai souvent cité.
Would like to share with us a question that British author he often shares about asked, his name is Alan Redpath.
Ça peut nous faire à tous réfléchir.
It can help all of us reflect.
Peut-être que nous pouvons établir peut-être une liste nous-mêmes de questions à nous poser.
Maybe we can come up with our own list of questions we need to ask ourselves.
Pour pouvoir faire le point régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois.
So that we can examine ourselves regularly, maybe once a month, once every 2 months.
Il dit par exemple, est-ce que je crée consciemment ou inconsciemment l'impression que je suis une meilleure personne que je ne suis en réalité ? Autrement dit, est-ce que je suis un hypocrite ?
In other words, am I a hypocrite ?
Est-ce que je suis honnête dans toutes mes actions et mes paroles, ou est-ce que j'ai tendance à exagérer ?
Am I honest in all my acts, actions and words, or do I tend to exaggerate ?
Hein, quand on écrit son CV,
when we write our resumes,
est-ce que je garde des confidences qu'on me fait ? Est-ce qu'on peut me faire confiance ?
Can people trust me ?
Est-ce que je suis esclave de la mode ?
Am I a slave to what's in ?
Des amis, du travail, des habitudes ?
Or to friends, or to my work, or to habits ?
Est-ce que j'ai tendance à m'apitoyer sur mon sort ?
Or do I have a tendency to pity my place in life ?
À me justifier ?
Or to justify myself ?
Est-ce que la Bible m'a parlé récemment ?
Has the Bible spoken to me recently ?
Autrement dit, est-ce qu'en lisant, est-ce que j'ai eu envie de souligner quelque chose ? Ou est-ce que j'ai lu peut-être mes 5 minutes, ou mes 10 minutes, ou mon quart d'heure, juste pour être sûr de le faire ?
In other words, have I read something recently in the Bible that I wanted to underline or that spoke to me, rather than just passing my 5, 10 or 15 minutes because I have to do it ?
Quelle est la dernière fois où j'ai parlé à quelqu'un pour leur présenter Christ ? Est-ce que je prie sur la façon dont je dépense mon argent ?
Wow.
Est-ce que je me mets au lit et est-ce que je me lève à l'heure ?
Do I go to bed and get up on time ?
Est-ce que je désobéis à Dieu en quelque chose que ce soit ?
Do I disobey God in any area ?
Comment est-ce que je passe mon temps libre ?
How do I spend my free time ?
Est-ce qu'il y a de la fierté en moi ?
Do I have pride ?
Est-ce que je me plains constamment ?
Est-ce ?
Je me plains constamment. Christ est-il réel pour moi ?
Is Christ real for me ?
Je vous laisse méditer et faire vous-même votre liste de questions.
Pierre will let us meditate on these and come up with our own list of questions.
J'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Autrement dit, Paul leur dit que si vous êtes vraiment chrétien, vous allez reconnaître que moi aussi je suis un vrai apôtre. Vous reconnaîtrez que je suis vraiment chrétien, un apôtre si vous êtes vraiment chrétien.
You'll recognize that I am truly a Christian?
An apostle.
An apostle.
If you are truly Christians. When you pass the test, you'll know that I passed the test. I did. Pardon. Pour mon impatience. Cependant, nous prions Dieu. Les Corinthiens étaient pénibles au possible et Paul priait pour eux.
Now we pray to God that you do no wrong, not that we ourselves may appear approved, but that you may do what is right.
Prions pour ceux qui sont difficiles à aimer.
So let's pray for those who are difficult to love.
Ça les changera peut-être, mais ça va changer notre cœur à leur égard.
It might change them a little bit, but it will certainly change our hearts towards them.
Verset 8, il dit en essence, la vérité a cette puissance incroyable.
And verse 8 tells us that this incredible, powerful truth.
Il n'y a pas de puissance contre la vérité.
But there is no power against truth.
Rien ne prospérera contre l'évangile, contre la bonne nouvelle. Un auteur disait aussi, ne passez pas votre temps à défendre la parole de Dieu. Contentez-vous de l'annoncer. Des fois, il vaut mieux citer un verset que se lancer dans un long raisonnement. Souvenez-vous-en cet après-midi. Lui, Paul, il disait qu'il préférait être faible, peu importe sa réputation. Lui, ce qui comptait, c'était leur perfectionnement. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être parfait. Quand on perfectionne son anglais, on ne pense pas à devenir Shakespeare. Quand on perfectionne sa conduite automobile, on n'espère pas devenir Schumacher. Ce qu'il veut, c'est leur maturité spirituelle. Le mot perfectionner, c'est un mot qui est utilisé pour parler de équiper.
And the word for perfecting is a word that is used for to express equipping.
Par exemple, équiper une armée pour la bataille.
For example, equipping an army for battle.
Préparer un bateau pour un voyage.
Or to prepare a battle for a trip.
C'est même utilisé pour dire réparer des filets. Pour remettre une fracture en place.
Or to put a fracture back into place.
Et donc c'est son souhait. Il veut, lui il dit, il s'en fiche de ce qui lui arrive. Ce qu'il veut, c'est son amour pour eux. Il veut, dans son amour pour eux, il veut qu'ils soient perfectionnés, qu'ils soient matures spirituellement.
So out of his love for them, Paul truly desires their becoming, their spiritual maturity.
Et donc c'est pour ça qu'il leur dit, je préfère vous écrire durement. En espérant que quand j'arrive, tout ça sera réglé. Et verset 11, l'amour reprend le dessus, il leur souhaite tout le bonheur chrétien possible. Soyez dans la joie. Tendez à la perfection, c'est le même mot, la maturité spirituelle. Consolez-vous, encouragez-vous les uns les autres. Ayez une même pensée, celle qui était en Christ. Vivez en paix et conséquence, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints, donc ceux qui étaient les chrétiens qui étaient avec lui dans la ville d'où il écrivait cette lettre, les saluent.
And all the saints, that is all believers with Paul, greet them.
Et termine par cette merveilleuse expression où on voit la Trinité à l'œuvre, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous.
And then Paul ends with this wonderful phrase where we see